La vérité, c'est votre émission d'exhortation, d'édification et de méditation profonde. La vérité, c'est votre émission où la vérité biblique est proclamée sans détour, sans complaisance, sans compromis et sans concession. Collectez-vous toujours très nombreux et recevez la délivrance et recevez la vie. Et surtout, n'oubliez pas de passer le message autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Abondamment. Amen. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à recevoir la vérité. Préparez-vous à recevoir la vérité chez vous. C'est l'heure de la vérité. C'est l'heure de la vérité. La vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, recevez tous mes sincères et chaleureuses salutations dans le tout-puissant, magnifique et glorieux nom du roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes bel et bien à l'écoute de votre très chère émission, l'heure de la vérité. Oui, vous écoutez l'heure de la vérité. Pour vous servir une fois de plus, je reste et je demeure toujours votre très humble serviteur. Et cette mission se déroule sous l'œil très très vigilant de son Excellence, Sa Majesté, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha et l'Oméga, l'admirable conseiller, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, que le nom du Seigneur soit vraiment béni, exalté, magnifié, célébré. Pour ce merveilleux privilège qu'il nous accorde une fois de plus, de passer un peu de notre temps dans sa sainte parole. Ce n'est pas toujours évident, parce que c'est par la grâce de Dieu que toute chose est possible. Oui, Seigneur, merci infiniment pour ton souffle de vie, ta divine protection. Merci pour ce nouveau rendez-vous que tu nous donnes de l'honorer autour de ta sainte parole. Merci pour tous ces auditeurs, toutes ces auditrices qui écoutent à partir de ce moment même où, Seigneur, qui se trouve. Merci pour tout ce que tu as déjà planifié d'avance et que tu vas tout simplement veiller afin que cela puisse s'accomplir. Merci pour ta sainte parole qui sera encore proclamée en esprit et en vérité. Bénis cette parole, Seigneur, pour qu'il n'y ait point de mauvaises interprétations ni de mauvaises compréhensions, ainsi que tout esprit qui se lève contre la connaissance de la vérité. Que tout auteur qui se lève de quelque manière que ce soit contre la vérité soit tenu assujetti au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus de prendre ta contrôle et de te glorifier. Amen. Oui, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, je suis infiniment reconnaissant au Dieu vivant qui m'accorde une fois de plus ce merveilleux privilège d'honorer ce rendez-vous Et rassurez, vous avez vraiment très très bien fait d'être à l'écoute à partir de ce moment même. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur Jésus-Christ d'après l'épître de Paul aux Romains chapitre 10, le verset 17. Nous allons continuer notre enseignement sur l'Église et nous sommes toujours dans la série des enseignements concernant les fausses doctrines. Et nous sommes sur l'Église. Beaucoup de choses ont été déjà dites jusqu'à cette heure-ci et nous allons continuer toujours à nous entretenir sur l'Église. C'est un sujet très très intéressant puisqu'on ne peut pas parler de foi chrétienne sans parler de l'Église. Et nous avons vu à la lumière des Saintes Écritures qu'il n'y a qu'une seule Église biblique. Car Christ lui-même a dit, je bâtirai mon Église. Donc Christ n'a qu'une seule Église. Et cette Église, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui ont cru en lui et qui sont nés de son esprit. Oui, l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'a rien à voir avec un système religieux ni une religion. Et s'il n'y a qu'une seule Église, comment se fait-il alors qu'il y ait des multitudes de religions et d'églises sur la terre? Église de ceci, mission de ceci, de cela, ministère de ceci, de cela. On en crée tous les jours. Mais nous avons vu à la lumière des Saintes Écritures que tout cela ne vient pas de Dieu, mais au contraire, ça vient de Babylone ou de Babel. D'après Genèse, chapitre 11, où nous pouvons lire une fois de plus, à partir du verset 3, où il est écrit, il se dit l'un à l'autre, nous sommes dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 3 jusqu'au verset 9, où il est écrit, il se dit l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons le feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Il dira encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel leur dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons les langages, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Et lorsqu'on lit cette portion de Saintes Écritures, si on n'a pas la révélation du Dieu vivant, on ne peut pas lier cela à l'origine des systèmes religieux. Mais on va voir que dans ce texte que nous venons de lire, il y a beaucoup de points communs et ce n'est pas un hasard avec les systèmes religieux. Un, les gens se sont dit, faisons-nous un nom. Et ce que nous voyons de nos jours, les gens se sont fait des noms. En général, lorsqu'on entend quelqu'un prêcher l'évangile, on lui dit, tu es de quelle église? Vous êtes de quelle église? Et on s'attend automatiquement à ce que cette personne donne un nom. Le nom de sa religion ou le nom de son église. Mais est-ce qu'il y a cela dans la Bible? Pas du tout. Et les gens sont fiers de créer les religions, des systèmes religieux, d'avoir un nom qu'ils se sont donné eux-mêmes. Et parfois, beaucoup, par naïveté ou par ignorance, sont arrivés jusqu'à croire que les systèmes religieux, les religions viennent de Dieu. Ça ne vient pas du tout de Dieu. Même si beaucoup de gens peuvent avoir des intentions louables, même si dans ces systèmes religieux, on peut trouver des serviteurs de Dieu sincères, des chrétiens engagés et sincères. N'empêche, zèle et sincérité ne sont pas synonymes de vérité. Oui, je répète, je dis zèle et sincérité ne sont pas synonymes de vérité. Vous pouvez être zélé et sincère, mais dans l'ignorance et dans l'égarement. Et il y a des similitudes. Dans cette portion des Saintes Écritures, que nous venons de lire, nous sommes dans Genèse chapitre 11, les gens se disent, faisons-nous un nom, bâtissons une tour dont le sommet touchera le ciel. Donc ils avaient une ambition, bâtir une tour dont le sommet va toucher le ciel, c'est-à-dire être le plus grand, le plus haut possible. Si c'est possible même, défier Dieu. Et c'est ce qui caractérise tous les systèmes religieux. Ils sont prêts à tout faire pour être le plus haut possible. Beaucoup font même la publicité de leur système religieux jour après jour. Vous n'allez qu'à regarder autour de vous, beaucoup, au lieu de prêcher l'évangile, prêchent que leur système religieux. Beaucoup font que la promotion de leur système religieux. Au lieu de prêcher la bonne parole du Seigneur, passent leur temps à dire, venez dans notre religion, venez dans notre système religieux. Nous sommes les premières religions, nous sommes les meilleures, nous sommes les églises réveillées, il n'y a que nous. Il faut venir chez nous, chez vous où? Nous voyons que c'est un esprit qui vient de Babylone. Et bien entendu, lorsqu'on a déjà créé un système religieux, on doit tout faire pour que ce système religieux ait autant de membres que possible. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir en ce qui concerne les temples, les cathédrales et autres. Dans Genèse, ces hommes vont dire, bâtissons une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et la Bible nous dit qu'ils avaient comme matériel les briques et le bitume. Et l'une des choses qui caractérise les systèmes religieux, ils investissent beaucoup dans les briques, le bitume, les ciments, les parpaings et autres pour construire des gros bâtiments. Parce que c'est à partir de là qu'ils vont s'affirmer, qu'ils vont montrer qu'ils servent vraiment Dieu. Alors que le vrai temple, le vrai bâtiment de Dieu sur la terre, ça n'a rien à voir avec les briques, les ciments, les parpaings. C'est le corps de l'homme qui est le temple du Dieu vivant. Nous avons lu cela, je tiens à revenir dessus parce que c'est très très important. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Je vous encourage une fois de plus à relever tous ces versets et après vérifier tranquillement chez vous. Parce qu'il faut que votre foi soit fondée uniquement sur la parole de Dieu. Oui, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16 et 17 nous disent clairement que... Oui, les versets 16 et 17 nous disent clairement que... Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Oui, vous êtes le temple de Dieu, c'est le chrétien qui est le véritable temple de Dieu. Donc, normalement, les serviteurs de Dieu investissent beaucoup plus dans les chrétiens et dans les hommes qui sont le véritable temple de Dieu que d'investir dans les cathédrales, dans des temples de briques, alors que les véritables... temples, qui sont les frères et sœurs en Christ, sont parfois là meurs de faim. Les enfants ne vont pas à l'école, mais beaucoup sont toujours préoccupés à bâtir des gros temples. Ce n'est pas biblique. Et nous allons également voir que lorsqu'on a déjà bâti du grand temple, on va tout faire pour que ce temple soit plein, quitte à recruter même les païens pour venir remplir ce temple. S'ils viennent, et donne les dîmes et les offrandes, qu'ils soient chrétiens ou pas, ce n'est pas très très important. C'est pour cette raison que nous pouvons voir dans beaucoup de milieux religieux, beaucoup qui ne sont pas des chrétiens nés de Dieu, nés de nouveau, mais qui sont très fidèles, actifs, et qui ont même des postes de responsabilité, surtout quand ces personnes sont riches. Oui, c'est normal, puisque ce n'est plus vraiment Dieu qui est au centre, ce n'est plus vraiment le Seigneur Jésus-Christ qui est au centre. Et nous allons continuer. Nous allons voir que c'est à partir de là que Dieu va descendre et les confondre. D'ailleurs, je disais déjà la dernière fois que Babel, c'est confondre ou confusion. Et lorsque nous voyons les systèmes religieux qui pullulent, il y a vraiment de la confusion. On ne sait plus vers qui se tourner. Parce qu'il y a tellement de religions et qui parlent tous de Dieu, mais malheureusement parfois ne s'entendent pas ou prêchent les contradictions et pourtant ils servent le même Dieu. C'est vraiment la confusion. Oui, parce que c'est déjà Babel, c'est Babylone, le lieu de la confusion. Et je tiens aussi à ce que vous sachiez que le diable, l'ennemi numéro un de Dieu, et cette personne qui domine cette terre. Et nous allons lire cela dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5, le verset 19, où il est écrit. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Je peux lire ceci pour nous. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Amen. La Bible nous dit clairement que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc c'est le malin, le diable, qui domine ce monde dans lequel nous vivons. Beaucoup ne le savent pas. Et si le diable domine ce monde, non seulement il domine le domaine politique, il domine le domaine économique, également le domaine religieux. Le diable a vu également qu'en s'investissant beaucoup dans le domaine religieux, il pourra attraper beaucoup d'âmes et les détourner du droit chemin et les conduire tout droit à la perdition. Écoutez grandement vos... Sachez que beaucoup des religions qui existent sur cette terre ne viennent pas de Dieu. C'est Satan en personne qui est derrière tout cela. Parce qu'il cherche à avoir autant de gens que possible avec lui dans les temps de feu après le jugement dernier. Et il a jugé aussi bon de s'investir dans la religion. Et ainsi, il a créé beaucoup de religions. Et dans ces religions, il prêche la parole de Dieu. Il parle même un peu de vérité. Mais après, il mélange beaucoup de mensonges. Et puisque beaucoup de personnes sont devenues des aveugles et des aliénés spirituels, ils n'arrivent même plus à discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. C'est vraiment regrettable. Oui, vous avez le droit et le devoir d'examiner ce qu'on vous enseigne et d'étudier vous-même pour voir si on ne vous a pas trompé, si on ne vous a pas berné. Et j'ai l'habitude de dire ceci, que le dernier jour, le grand jour du jugement, beaucoup vont mettre les mains sur la tête parce qu'ils vont se rendre compte qu'on a passé le temps à les tromper dans leur religion. Mais puisqu'ils n'avaient jamais eu le temps de lire eux-mêmes la Bible, d'examiner ce que le pasteur enseigne, les dogmes de leur système religieux, on les trompe comme des bébés. Oui, parce que les hommes sont devenus non seulement des paresseux spirituels, des aveugles et des alignés même, à la limite. Sinon, comment comprendre que les hommes soient vraiment conscients que ce qu'on pratique dans leur système religieux n'a rien à voir avec la parole de Dieu? Comment comprendre que les gens soient vraiment conscients que ce qu'on les enseigne n'a pas de fondement biblique? Comment comprendre que les gens voient tout ce qu'on fait autour d'eux dans leur système religieux au nom de Dieu, mais qui n'a rien à voir avec Dieu, et qui malgré tout, ils s'entêtent à dire qu'ils vont mourir dans cette religion, et qui s'entêtent à dire que ils n'ont qu'une seule religion et ils vont demeurer dans cette religion jusqu'à la fin de leur vie? Est-ce que c'est une religion qui va vous sauver? Est-ce que c'est une religion qui est morte pour vous à la croix? Est-ce que le dernier jour, le Seigneur Jésus-Christ va vous demander si vous étiez dans telle religion? Non, pas du tout. Il va vous demander, qu'avez-vous fait de votre vie? Voilà la question. Parce que Dieu vous a créé libre. Vous êtes également libre de croire en Dieu ou de ne pas croire. Mais un jour, vous allez rendre compte. Vous êtes aussi libre d'entrer dans un système religieux. Également, vous êtes libre d'en sortir. Quand vous croyez que vous n'êtes plus libre de sortir d'un système religieux, vous êtes déjà en captivité. L'homme doit être libre de ses mouvements. Que ce soit libre pour entrer dans un système religieux, libre pour en sortir. Lorsque vous ne pouvez plus sortir, c'est que Satan vous a déjà pris en otage. Que vous le croyez ou pas. C'est ça qui est la vérité. Dans 2 Corinthiens chapitre 11. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13 au verset 15, nous pouvons lire ceci. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13 au verset 15, il est écrit: ces hommes-là, ce sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13, où j'étais en train de lire. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Écoutez bien, la Bible nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et la Bible est claire, formelle. Beaucoup disent qu'ils sont des apôtres alors qu'ils ne le sont pas. Qu'ils sont des serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Ils se sont tout simplement déguisés. Parce que lorsque quelqu'un est vraiment appelé de Dieu, quand quelqu'un est un vrai apôtre, un vrai serviteur de Dieu, il doit prêcher que la vérité biblique. Il ne doit pas prêcher les dogmes de sa religion. Oui. Et Satan lui-même se déguise en ange de lumière, c'est ce que nous avons lu. Donc Satan peut prendre même l'apparence des serviteurs de Dieu et implanter des religions qui peuvent prospérer. Alors que lorsqu'on examine avec l'œil spirituel, on se rend compte que c'est Satan lui-même qui s'est déguisé en ange de lumière. Et malgré tout, il a réussi à séduire beaucoup de gens. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Très chers auditeurs, très chères auditrices, je vous invite à rester tout simplement à l'écoute et surtout d'ouvrir grandement vos cœurs et vos oreilles. Oui, mesdames et messieurs, très chers auditeurs, très chères auditrices, vous êtes bel et bien à l'écoute de votre très chère mission, l'heure de la vérité. Nous allons continuer notre partage concernant l'Église. Église ou entreprise commerciale. Oui, ça c'est une réalité. La vérité aussi c'est que beaucoup d'églises en réalité sont avant tout des entreprises commerciales. Oui. Nous allons lire dans Jean chapitre 2, l'évangile de Jean chapitre 2 à partir du verset 13 au verset 16. Oui, l'évangile de Jean, chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 16. Je peux lire ceci pour nous tous. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs des pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Amen. Nous voyons ici le Seigneur Jésus-Christ qui, un jour, a fait un tour dans le temple, ce temple, à l'époque de la loi, qui était censé être un lieu de culte et d'adoration, qui, malheureusement, était devenu un lieu de trafic. Oui, on avait transformé ce lieu de culte et d'adoration en un lieu de trafic, un grand marché. Et c'est ce que nous voyons de nos jours dans beaucoup de milieux religieux qui sont censés être là pour prêcher la bonne parole de Dieu. Tout tourne autour de l'argent. Oui, tout tourne autour de l'argent. Nous voyons vraiment que beaucoup se cachent tout simplement derrière le nom de Dieu pour faire les affaires, pour gagner beaucoup d'argent. Comment comprendre que on fait acheter aux gens même ce qu'on ne doit pas acheter? Quelqu'un m'a envoyé un message la dernière fois, je n'ai pas pu lire ce message parce que c'était la fin de l'émission. Oui, le message était ceci, est-ce qu'on doit payer le baptême? C'est un auditeur qui avait envoyé ce message. Vous voyez, on fait payer même les baptêmes. Dans quelle Bible est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a recommandé que l'on paye le baptême? Entre nous, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 8, le Seigneur Jésus-Christ était formel. L'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 8. Jésus dit ceci, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé de prier pour les gens, de prêcher l'évangile, de les délivrer gratuitement. Mais toutes ces choses-là sont payantes aujourd'hui dans beaucoup de systèmes religieux. Ça n'a plus rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Aujourd'hui, on sait déjà que lorsqu'on dit enterrement, on dit automatiquement l'argent que les gens doivent sortir de leur poche. Oui. On ne vient plus dans les lieux de deuil pour célébrer la messe comme on dit, ou bien pour prêcher la parole du Seigneur Jésus, tout simplement, mais beaucoup plus pour récolter de l'argent. Moi, j'essaie de dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Non, on sait déjà que ça n'a plus rien à voir avec Dieu. Puisque pour faire moins de choses, on parle de l'argent. Petites choses, on parle de l'argent. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Dieu et maman ou Dieu et l'argent. On va choisir un maître. Si c'est Dieu, on reste avec Dieu. Si c'est l'argent, on reste du côté de Satan avec son argent. Oui, dans beaucoup d'églises, on invente les offrandes. Offrandes de ceci, offrandes de cela. Je comprends les témoignages. Parce que tous les jours que Dieu a créé, les gens qui sont déjà fatigués de donner de l'argent dans les milieux religieux. Il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut donner ceci, il faut donner cela. On invente toutes sortes d'offrandes. C'est normal. Puisque ces systèmes religieux et ces églises sont avant tout des entreprises commerciales et non véritablement l'église du Seigneur Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 18, Apocalypse chapitre 18, à partir du premier verset au verset 5, nous pouvons lire ceci. Apocalypse chapitre 18, à partir du premier verset au verset 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin, la fureur de sa débauche. Que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ici, la Bible est en train de nous parler du jugement de Babylone la Grande. Oui, Babylone ici représente l'église apostate. Cette église qui n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Et cette église apostate s'est multipliée et a eu des enfants. Et la Bible va nous dire quelque part, nous sommes dans Apocalypse chapitre 18, qu'elle s'est enrichie. Elle est tellement riche et beaucoup de gens se sont enrichis par la puissance de son luxe. Oui, l'une des choses qui caractérise beaucoup de systèmes religieux, c'est le luxe qu'on peut trouver. C'est autant d'argent que ces systèmes religieux possèdent. Alors que, au temps des premiers apôtres, l'apôtre Pierre et Jean pouvaient dire à un paralytique, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous te donnons. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et le paralytique pouvait se lever au nom du Seigneur Jésus-Christ et marcher. Et eux, ils n'avaient ni or ni argent. Mais aujourd'hui, beaucoup de systèmes religieux sont tellement riches en or et en argent, mais très très pauvres spirituellement. C'est normal qu'ils soient riches, puisqu'ils ont mis tout en place pour avoir autant d'argent que possible. Que celui qui a vraiment des oreilles pour entendre. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une entreprise. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas une entreprise. Parfois, certains systèmes religieux, certaines églises ont même des comptes bancaires où dorment et sommeillent les milliards. Pendant ce temps, les gens sont là, misère, souffrent. Les orphelins, les veuves, pendant ce temps, l'argent est en train de sommeiller les milliards dans un compte quelque part. Non, ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre. C'est Jésus qui a dit. Et quand une église se met déjà à amasser des trésors, des milliards. Ça veut dire qu'elle est pour la terre, elle n'est pas pour le ciel. Ça veut dire que c'est une église de la terre. Que celui qui a vraiment des oreilles pour entendre ce que je suis en train de dire, entende. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je vais répondre à ce message. Oui, la question est tout simplement, quelle religion allons-nous suivre? Oui, ça, c'est une question qui m'est posée dans ce message que j'ai reçu. La vérité, c'est que aucune religion ne vient de Dieu. Et par conséquent, si aucune religion ne vient de Dieu, il n'y a aucune religion qui peut sauver. Par contre, si la religion ne vient pas de Dieu, il y a des vrais chrétiens partout sur la terre. Il y a des gens qui craignent vraiment Dieu, qui aiment le Seigneur de tout le cœur sur la terre. Si vous vous intéressez vraiment à la chose de Dieu, si vous aimez vraiment le Seigneur, vous devez le prier et lui demander de vous conduire personnellement vers ceux-là qui s'efforcent de le servir et de le suivre en esprit, en vérité, et qui s'efforcent de pratiquer sa sainte parole. Arrêtez, c'est ce que les hommes devraient faire. Et si vous priez, en toute sincérité, le Seigneur, connaissant vos cœurs et connaissant ceux qui sont autour de vous, qui s'efforcent vraiment de marcher selon sa sainte parole, lui-même, il va se charger par son esprit de vous conduire vers ceux-là qui s'efforcent de le glorifier en toutes choses. Et une assemblée locale au sens biblique, ce n'est pas ce que nous avons l'habitude de voir. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit là où deux ou trois sont assemblés au nom d'une religion. Non. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là où les gens sont assemblés au nom du Seigneur Jésus, si c'est pour faire la volonté de Dieu, le Seigneur est au milieu d'eux, alors si le Seigneur vous conduit vers ces personnes, ensemble vous pouvez servir le Seigneur, vous pouvez louer, adorer le Seigneur ensemble et le servir aussi ensemble. C'est ça la simplicité de l'évangile. J'insiste beaucoup, il faut juste prier et laisser que le Seigneur lui-même vous conduise pour que vous ne couriez pas le risque de vous retrouver dans un milieu où vous ne deviez pas vous retrouver. Pour que vous ne couriez pas le risque de vous retrouver dans un endroit tout simplement parce que vous avez vu beaucoup de gens y aller ou bien parce qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Non, Jésus a dit entrez par la porte étroite car l'âge et la porte est spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup entrent par là. Oui, en bref, c'est ça. Il n'y a pas de religion qui peut sauver sur la terre. Pour servir Dieu, en réalité, l'homme n'a pas besoin de la religion. Par contre, il ne peut pas servir Dieu tout seul. Il doit tout simplement prier et demander au Seigneur de le conduire lui-même vers ceux-là qui l'aiment et surtout qui s'efforcent de pratiquer sa parole. Par exemple, en se réunissant selon le modèle biblique, pas selon le modèle des systèmes religieux mis en place qui n'ont rien à voir avec la sainte parole du Dieu vivant. Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 17. Oui, Apocalypse chapitre 17. Nous sommes à partir du premier verset. Oui, nous sommes dans Apocalypse chapitre 17 à partir du premier verset. Je vais lire ceci pour nous tous. Puis, un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Verset 3, il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, des pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Verset 6, j'ai vu cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Nous pouvons nous arrêter ici. La Bible nous dit beaucoup de choses concernant Babylone et la prostituée et ses filles. Donc, elle a enfanté. Nous pouvons remarquer en passant que la Bible nous dit que elle était assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant cette tête. Elle dit que cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, très riche, parée d'or. Ne vous fiez pas à l'apparence, l'apparence est trompeuse. Ce n'est pas parce que un système religieux a l'air très riche. Ce n'est pas parce que vous entrez dans un temple très luxueux que vous pensez que ça vient de Dieu, que Dieu est là-bas. Non, Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes. Ce sont les hommes qui ont bâti tout cela pour leur propre gloire. Et la Bible va continuer en disant qu'elle était ivre du sang des saints. Donc il y a beaucoup de systèmes religieux qui ont versé le sang des saints sur la terre. Beaucoup ne le savent pas. L'histoire nous montre que ceux-là qui disaient qu'ils étaient de Dieu, qu'ils étaient là pour servir Dieu, ont versé le sang des chrétiens, même plus que les empereurs païens. Pourquoi? Parce qu'ils se cachaient tout simplement derrière le nom de Dieu pour commettre des crimes, commettre toutes sortes d'abominations. Et lorsque les vrais chrétiens ouvraient les yeux et essayaient de dénoncer, on les lapidait, on les torturait, on les brûlait parfois vifs. Parce que le diable n'a jamais voulu que le peuple de Dieu connaisse la vérité. C'est pour cette raison qu'il a mis des systèmes religieux en place pour endormir les hommes. Comment se fait-il alors qu'elle soit ivre du sang des chrétiens? Même l'apôtre Jean qui avait cette vision était étonné. Il était vraiment étonné. Beaucoup parmi vous vont être étonnés de beaucoup de choses qu'ils vont entendre concernant les systèmes religieux. Beaucoup de gens vont être étonnés le dernier jour, le grand jour du jugement, lorsqu'ils vont se rendre compte qu'on les avait trompés, qu'on ne les avait pas dit la vérité concernant Dieu, concernant le salut de leur âme. Ils vont grincer les dents. Mais ça ne pourra plus changer quoi que ce soit. C'est pendant que vous êtes encore vivant maintenant que vous deviez faire un choix. Ouvrez vos yeux et vos oreilles spirituelles. Réveillez-vous enfin de votre sommeil. Parce que nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur est à la porte. Rappelez-vous, ça c'est le message de la fin des temps. Ce message qui nous ramène tout simplement à la parole de Dieu, qui ne prêche pas un système religieux, qui amène les gens à se tourner véritablement dans la parole du Seigneur Jésus et à renoncer aux faussetés, aux fausses doctrines, aux fables. Lorsque les systèmes religieux ont commencé à se mettre en place, puisqu'il fallait avoir autant de gens que possible, on enseignait des fables. On a importé des coutumes païennes. En fait, tout ce qui pouvait permettre aux gens de se sentir à l'aise à l'église, entre guillemets, même s'ils n'étaient pas des chrétiens. Ainsi, c'était la paganisation. Il n'y avait plus vraiment ni la parole de Dieu au centre, ni Jésus au centre, ni l'Esprit de Dieu au centre. Et c'est ainsi jusqu'à ce que les religions se multiplient comme nous pouvons le voir jusqu'à nos jours. Et toutes les religions ne viennent pas de la Bible. Les religions ne viennent pas de la Bible. Mais il n'y a qu'une seule église. Cette église, c'est l'église du Seigneur Jésus. Cette église, c'est vous et c'est moi. Si vous avez cru au Seigneur Jésus, en espérant en vérité, vous faites partie de son église. Et Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. L'église de façon locale, selon la Bible, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec un système religieux. Nous allons également nous rendre compte que, en général, lorsqu'on crée un système religieux sous forme d'entreprise qui a aussi pour vocation de produire beaucoup d'argent, on établit à la tête de cette entreprise un individu qui doit gérer, comme dans le monde. Oui, lorsqu'on crée une société, quelque part, on envoie quelqu'un qui va diriger et qui va rendre compte au grand patron. Beaucoup de systèmes religieux fonctionnent de cette façon. Et parfois, à la tête de ces assemblées, on a établi un pasteur. Parfois, certains pasteurs sont tout simplement comme des chefs d'entreprise. Des pasteurs et en même temps chefs d'entreprise. Ou bien, est-ce vraiment des pasteurs ou ce sont des chefs d'entreprise? Dans 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 3 au verset 10, il est écrit. Je lis pour nous tous. Si quelqu'un enseigne les fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la vérité, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et la Bible nous dit que beaucoup, en s'attachant tellement à de l'argent, se sont éloignés très très loin de la foi. En fait, beaucoup n'ont que l'apparence de la piété, puisqu'ils sont là avant tout pour de l'argent. Donc je tiens à préciser qu'il y a vraiment des pasteurs appelés de Dieu, des pasteurs qui ont été appelés et qui s'efforcent d'exercer correctement leur ministère, mais il y a beaucoup qui sont là tout simplement comme des chefs d'entreprise. Vous n'allez qu'à voir comment certains se plaignent lorsque les offrandes diminuent ou les dîmes. Ils s'inquiètent terriblement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les offrandes diminuent? C'est un sérieux problème. Mais lorsque les gens ne grandissent pas spirituellement, ce n'est pas tellement une préoccupation. Oui. Lorsque les gens ne mènent pas une vie qui glorifie Dieu, non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce sont les dîmes et les offrandes. Certains vont jusqu'à dire, nous ne voulons plus des pièces jaunes dans le panier. Nous sommes où là? Pour dire que si vous êtes pauvre, vous n'avez pas de place. On veut les billets. Parce que le pasteur est là tout simplement comme un chef d'entreprise et il veut que l'argent entre à tout prix. Dans Michée, chapitre 3, le verset 5. Michée, chapitre 3, le verset 5, nous pouvons lire ceci. Ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui égarent mon peuple, qui annoncent la paix si les dents ont quelque chose à mordre, et qui publient la guerre si on ne les met rien dans la bouche. Ça, c'est le Seigneur qui s'adresse ici à ses prophètes qui annoncent la paix lorsqu'ils ont à manger, lorsque on les donne de l'argent. Non, ils prophétisent du bien sur vous. Lorsque vous donnez des présents au pasteur, vous lui donnez de l'argent, donc vous devenez son meilleur ami. Mais lorsque vous n'avez rien à donner, ils prophétisent la malédiction sur vous. Nous voyons comment on dit des bonnes paroles sur ces personnes qui sont riches. Dès que quelqu'un arrive à l'église, s'il est un peu riche, non, il est directement l'ami du pasteur. Le lendemain, le pasteur connaît déjà sa maison. Mais vous qui êtes pauvre, vous pouvez fréquenter l'église 10 ans, le pasteur ne connaît pas votre maison. Qu'est-ce que vous pouvez lui donner, puisque vous êtes pauvre? Vous pouvez même être malade et mourir chez vous. Le pasteur s'en fout. Mais le riche, non, il est chez lui presque tous les jours. C'est son meilleur ami. En passant, il peut même lui donner un titre d'ancien ou de diacre, je ne sais pas trop quoi. Ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre va dire dans sa première lettre au chapitre 5, 1 Pierre chapitre 5, à partir du premier verset, il est écrit, 1 Pierre chapitre 5 à partir du premier verset, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible des gloires. » Ça, c'est l'apôtre Pierre qui s'adresse ici à ceux qui dirigent, qui doivent travailler non pour de l'argent. Donc un vrai pasteur ne travaille pas pour de l'argent. Il travaille parce que c'est une vocation. C'est une vocation. Et pendant qu'il est en train de servir, le Seigneur se charge de pourvoir à ses besoins. Parce que c'est le Seigneur qui l'a appelé. Mais beaucoup travaillent pour de l'argent. Pas étonnant que nous soyons très très loin de l'église selon la Bible. Nous sommes cette fois-ci dans Ézéchiel chapitre 34. Ézéchiel chapitre 34 à partir du verset 11. Ézéchiel chapitre 34 à partir du verset 11, il est écrit: car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, car j'en ferai la revue, comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis et passe. Ainsi, je ferai la revue de mes brebis, et je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées, au jour des nuages et de l'obscurité. Je retirerai entre les peuples. Je les retirerai entre le peuple et je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans les pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage et leur demeure sera dans les montagnes élevées d'Israël. Et là, elles reposeront dans un agréable asile et elles auront des grands pâturages sur des montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur, l'Éternel. Je chercherai celles qui étaient perdues, je ramènerai celles qui étaient égarées, et je panserai celles qui étaient blessées, et je fortifierai celles qui étaient malades. Voici ici la description d'un bon pasteur. Il est là pour le troupeau. Il n'est pas là pour son ventre et il n'est pas là pour de l'argent. Lorsque quelqu'un est déjà là pour son ventre et pour de l'argent, il n'a rien à voir avec un pasteur selon la Bible. Oui, il n'a vraiment rien à voir avec un pasteur selon la Bible. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 14 au verset 15, nous pouvons lire ceci. Voici la troisième fois que je suis prêt à aller chez vous. Je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, en vous aimant davantage. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit que lui, il ne recherche pas les dons ni les biens matériels. Et c'est exactement ce que les gens cherchent. Beaucoup de pasteurs passent le temps à chercher les dons, c'est les biens matériels. Ils flattent les gens pour les dons, c'est les biens matériels. L'apôtre Paul ira même très loin en disant, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Un bon pasteur, entre nous, entre un berger et une brebis, qui doit prendre soin de qui? Est-ce que ce sont les brebis qui doivent prendre soin du berger ou c'est le berger qui doit prendre soin des brebis? Aujourd'hui, on a inversé les rôles. Est-ce que vous avez déjà vu un jour les moutons prendre soin des bergers? Mais c'est ce que nous voyons de nos jours. Ce sont les brebis qui se battent, qui se poumonnent, qui transpirent pour prendre soin des bergers. Alors qu'en réalité, ce sont les bergers qui devraient prendre soin des brebis. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul pouvait dire, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et il s'adressait ainsi aux dirigeants et non aux simples chrétiens. Donc un bon pasteur, ce n'est pas celui-là qui s'assoit, qui attend à tout prix des brebis et qui est même prêt à arnaquer les brebis, à dépouiller des brebis. Dans beaucoup de milieux religieux, les pasteurs ne font que s'engraisser. Ils prennent du poids chaque jour, tandis que les brebis ne font que maigrir pour finir par mourir. Oui. Parce que beaucoup de ceux qui se disent passer en réalité ne sont que des mercenaires. Ils sont en train de vous faire la différence entre un bon pasteur et un pasteur chef d'entreprise qui est seulement là pour son ventre et pour gagner de l'argent. Et tout cela nous vend dans les systèmes religieux, dans les églises. Et quand on fait le rapprochement, on voit tout simplement que ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus-Christ. Très chers auditeurs, très chers auditrices, nous sommes presque à la fin de notre émission de ce jour. Et si le Seigneur permet, nous allons continuer sur cette même lancée. Mais avant de nous séparer, un auditeur a envoyé ce message, savoir le verset biblique, je ne sais pas de quel verset, de quelle question, mais nous avons partagé dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 13 au verset 15, dans Genèse chapitre 11, à partir du premier verset au verset 9. Nous avons aussi partagé dans Jean chapitre 2, à partir du verset 13 au verset 16, et Apocalypse chapitre 18, à partir du premier verset au verset 5. Bien entendu, 1 Timothée chapitre 6, à partir du verset 3 au verset 10. Aussi, nous n'avons pas lu, vous pouvez également lire Philippiens chapitre 3, à partir du verset 17 au verset 19, qui nous dit que beaucoup sont là seulement pour leur ventre. Bien entendu, Michée chapitre 3, verset 5, 1 Pierre chapitre 5, les 5 premiers versets, Ézéchiel 34, à partir du verset 11 au verset 16, et 2 Corinthiens chapitre 12, les versets 14 et 15. Et je tiens aussi à préciser que vous pouvez également réécouter cette émission tout simplement en me contactant, et vous pouvez également recevoir beaucoup de mes messages, que ce soit sur des brochures, des CD, des VCD, des DVD, et tout cela est bien entendu distribué gratuitement. Vous n'allez qu'à me contacter tout simplement. Béni soit le Seigneur qui a permis que nous passions ces merveilleux moments autour de sa sainte parole. Si le Seigneur le permet, nous allons nous retrouver également et sur cette même antenne, à la même heure, et nous allons continuer sur cette même lancée. D'ici là, que la bonne main du Seigneur soit sur vous et surtout méditez profondément sur tout ce que vous avez écouté et que la gloire, les honneurs, les actions de grâce, la louange, l'élévation et l'adoration reviennent tout simplement au Seigneur Jésus-Christ. Amen.
N'oubliez pas que vous pouvez aussi lire, écouter, visionner et télécharger gratuitement mes différents messages sur mon site internet www.pasteurrodrigue.com. Pasteur Rodrigue, c'est en un seul mot. Pasteurrodrigue.com. Si vous avez des questions ou des préoccupations quelconques, sentez-vous libre de m'appeler au 77 61 93 77 ou aussi au 96 36 25 40. Et vous pouvez précéder ces deux numéros de 00237 qui est le code du Cameroun si vous m'appelez hors du Cameroun. Vous pouvez aussi m'écrire à l'adresse électronique rodrigue.genji@yahoo.fr. Genji s'écrit N-J-E-N-D-J-I. rodrigue.genji@yahoo.fr. C'était l'heure de la vérité, l'heure de la vérité qui divise et qui dérange, mais aussi et surtout la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve, la vérité qui délivre, la vérité qui libère. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Jean chapitre 8, le verset 32. Vous tous qui aimez la vérité, et surtout la vérité biblique, soyez abondamment bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour vous servir, je suis le pasteur et serviteur du Seigneur Jésus-Christ, Rodrigue Genji. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Ne l'oubliez jamais, ne l'oubliez jamais, jamais. Le vrai bonheur, c'est dans la sainte parole du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai bonheur, c'est avec le Seigneur Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Si le Seigneur Jésus-Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Seigneur Jésus-Christ revient très 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 bientôt. Es-tu prêt? Es-tu prête?